capo alla source.
Caroline.
Eh bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission d'histoire locale ou lointaine sur Radio Vassivière, anti-histo-amétropique, votre traitement contre la mauvaise vue historique. Alors aujourd'hui on se lance dans le deuxième et dernier épisode sur les guerres qui ont directement suivi les différents armistices de novembre 1918. Et là donc on va s'attaquer à de gros morceaux avec dans un premier temps les conflits liés à l'éclatement de l'Empire d'Autriche-Hongrie, puis les conflits dans les Balkans dus à la fois justement à cette implosion, mais aussi à la révolution russe. Ensuite, on se dirigera dans le Levant et l'ancien empire ottoman pour terminer dans le Caucase. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Bref, l'empire austro-hongrois. Alors, il faut savoir qu'il était au supplice après l'échec de son offensive de juin 1918 sur le fleuve Piave. C'est dans le nord-est de l'Italie. Ils ont épuisé presque toutes les réserves de munitions, sont au bord de la famine et enfin, eh bien, l'armée est démoralisée et exsangue. Or, l'armée, c'était le principal pilier du régime. Sa perte, ça a conduit à briser le très fragile équilibre de l'Empire. Sans compter, donc, je vous rappelle, sur la déclaration du président américain Wilson qui affirmait le droit des peuples de l'Empire à disposer d'eux-mêmes. Plus rien donc ne peut empêcher l'indépendance des différents peuples formant la mosaïque impériale dominée par la double monarchie. Double monarchie, et oui, car cet empire n'était pas au sens propre un seul et même pays. Il s'agissait d'une union réelle de deux états voisins et égaux, dirigés par le même souverain et liés légalement. Il s'agissait d'un côté des royaumes et pays représentés au Reichsrat, c'est une assemblée dominée par l'archiduché d'Autriche et composée des royaumes de Bohême et de Galicie. Et d'un autre côté, il y a les pays de la couronne de Saint-Étienne, dominés cette fois-ci par le royaume de Hongrie et comprenant aussi le royaume de Croatie-Slavonie. Donc deux états, la Hongrie et l'Autriche, qui dominent le tout, dirigés par les Habsbourg depuis 1272. Ça fait une paye. Ce sont donc les Tchèques qui se déclarent indépendants les premiers le 28 octobre, puis le 29, les Croates, Slovènes, Serbes, qui créent tout de suite une union, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui s'appellera plus tard, eh oui, la Yougoslavie. Le 30 octobre, donc, c'est le tour des Slovaques qui se séparent de la Hongrie et demandent leur union avec la Tchéquie. Le 31 octobre, c'est au tour des Ukrainiens de Galicie. Et voilà, c'est dans cet état que l'Empire subit à partir du 24 octobre l'offensive des Alliés sur Vittorio Veneto. L'armée s'effondre totalement, ce qui conduit à l'armistice de Villa Augusti le 3 novembre. La dislocation poursuit son cours après l'armistice du 11 novembre avec l'indépendance de la Pologne et son incorporation de la Galicie. Le 12, c'est la proclamation de la République d'Autriche allemande, le 16 de la République démocratique hongroise, le 28 de la proclamation par les Roumains de Bucovine et de Transylvanie de leur sécession avec la Hongrie, et enfin le 1er décembre de leur union au royaume de Roumanie. Lors de la conférence pour la paix de 1919, l'Autriche et la Hongrie furent considérées comme responsables du conflit et faisant partie des perdants. Et dans ce cas, ils furent, comme l'Allemagne, l'Empire ottoman et la Bulgarie, exclus des négociations. A l'inverse, la Tchécoslovaquie fut considérée comme peuple asservi et eut droit au chapitre. Le traité de Saint-Germain-en-Laye fut signé le 10 septembre 1919 avec l'Autriche. On lui refusa de se rattacher à l'Allemagne afin de garder ses deux puissances industrielles affaiblies. L'Autriche dut subir, début 1919, des assauts de la jeune Yougoslavie pour le contrôle de la Carinthe, et en août 1921, de la Hongrie au sujet du Bungerland. Sans rien armer, elle fut aussi sans défense contre l'invasion italienne dans le sud du Tyrol. Mais une autre menace grondait, c'était celle de la guerre civile, entre les Rouges et les Noirs. Les Noirs, ils étaient représentés par les chrétiens sociaux, les conservateurs, souhaitant même parfois une restauration monarchique. Dans ce climat, le ministère de la guerre, socialiste, met en place ce qu'on appelle les Volkswehr. C'est une armée semi-régulière composée de membres du parti et excluant les officiers de l'ancienne armée impériale jugée indigne. Donc tous les éléments pour une explosion sont en place. Et pourtant, le pays évita le pire. Mais pas pour longtemps. Et oui, malheureusement, la guerre civile eut lieu en 1934. vient après donc le tour de la Hongrie, elle aussi jugée de la Hongrie. Elle fut jugée avoir une possible influence néfaste sur la région. Ce vaste état avant 1918 est donc dépecé par le traité du Trianon du 4 juin 1920. La Grande Hongrie, comme on l'appelait, perd les deux tiers de son territoire et la moitié de sa population. La raison de cette mise à terre se trouve dans les événements qui ont suivi la fin de la guerre. En effet, la Roumanie, profitant de l'effondrement, rentra une nouvelle fois en guerre le 10 novembre en dénonçant les conditions du traité de Bucarest. C'est ainsi qu'elle put occuper toute la Transylvanie. Les Tchèques, ne voyant pas de réponse hongroise, décident d'occuper eux aussi la Slovaquie et la Ruthénie. Mais le coup de grâce vient d'un militaire français, le colonel Vix, qui exigea la cession d'une portion supplémentaire du territoire au profit de son allié roumain. Les communistes d'un certain Béla Kun profitèrent du sentiment d'humiliation pour prendre le pouvoir et proclamer une guerre révolutionnaire nationale. Il rassembla une armée rouge puissante et bouta aisément les Tchèques hors de Slovaquie. Mais en même temps, une terreur rouge fut mise en place, faisant ainsi perdre le soutien populaire au nouveau régime communiste. Devant l'avance hongroise, Paris exigea le retrait de l'armée rouge de Slovaquie. Mais pensant la révolution inéluctable, Béla Kun ordonna le retrait. C'est alors qu'il subit des révoltes, une offensive d'une armée contre-révolutionnaire, mais aussi une offensive roumaine qui occupa même Budapest durant 3 mois. Un nouveau régime anti-révolutionnaire fut donc mis en place. Ce régime ne dérogea pas à la règle et débuta à son tour une terreur, mais cette fois-ci blanche. Les alliés comprenant avec ces événements que la Hongrie pouvait être encore dangereuse, elle les obligea à signer le traité de Trianon pour définitivement éliminer la menace. Par la suite, le gouvernement tenta de limiter l'influence des milices anti-révolutionnaires en recréant une armée influente. Mais ces groupes ne disparurent jamais et refirent surface dans les années 30. Le régime tenta aussi par deux fois de rétablir la monarchie, mais dut abandonner du fait de la mobilisation de la Petite Entente, composée de la Roumanie, la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, soutenue par la France. Et voilà donc que la Roumanie sera elle grande vainqueur dans la région. Elle double son territoire, mais même si elle arrive à réunir les populations roumaines, elle récupère aussi certaines minorités, notamment hongroises, allemandes et juives. Et elle oublia très vite ses engagements pris au traité de Versailles, à savoir respecter les droits des minorités en tentant de les assimiler. Puis, après 1920 et un coup d'État, la Roumanie prit un virage conservateur et autoritaire et adopta des lois discriminantes, eh oui, envers les Hongrois et les Juifs, encourageant les conflits sociaux et ethniques. Quant à la Tchécoslovaquie, on a vu qu'elle ne doit son union que par un conflit face à la Hongrie, communiste, eh oui, et non conservateur, et le soutien français. Mais elle entra aussi en conflit avec la jeune Pologne lors d'une guerre de 7 jours pour s'emparer de Tessine. Cependant, cette fois-ci, les Français imposèrent un retrait tchèque au profit de son fidèle allié polonais. Et voilà les conséquences de l'explosion de cet empire sur son propre territoire. Mais en dehors de celui-ci, elle toucha la Roumanie, mais aussi tous les autres États des Balkans. Logique, et oui, quand on sait que la Première Guerre mondiale fut déclenchée dans cette région mouvementée. L'Autriche déclenche cette guerre pour punir la Serbie et l'anéantir, la voyant depuis sa création comme un perpétuel danger. On appelait d'ailleurs cette région donc la poudrière des Balkans. Mais c'est quoi au juste les Balkans? Eh bien c'est une région de l'Europe du Sud, bordée par des mers sur 3 côtés. La mer Adriatique et la mer Ionienne à l'ouest, la mer Égée au sud et la mer de Marmara ainsi que la mer Noire à l'est. Au nord, on la délimite généralement par les cours d'eau du Danube, de la Save et de la Kupa. Concrètement, elle rassemble l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la province italienne de Trieste, le Kosovo, la Macédoine, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie, la Slovénie et la partie européenne de la Turquie, aussi appelée Thrace orientale. On y reviendra plus tard. Historiquement, donc, ces États étaient occupés par l'Empire ottoman. Mais tout au long du 19e siècle, ils ont pris petit à petit leur indépendance. Et enfin, après les guerres balkaniques de 1912-1913, l'Albanie indépendante fut créée avec le soutien de l'Autriche-Hongrie pour priver la Serbie d'un accès à la mer. Et oui, car depuis sa naissance, la Serbie ne cesse de prendre de l'empereur et ne cache plus son rêve d'union des Slaves sous son autorité, au détriment de l'Autriche-Hongrie. Tout ça donc pour dire que cette région se bat depuis plus d'un siècle, et tout particulièrement depuis 1912. Et pensez-vous que ça va s'arrêter avec le 11 novembre? Bien sûr que non, sinon nous n'en parlerons pas. L'Albanie, elle, est restée neutre durant la Grande Guerre. Mais sortie perdante des conflits balkaniques précédents, elle souhaite récupérer les territoires albanophones sous domination étrangère. Elle rentre donc en conflit avec la jeune Yougoslavie. Le conflit s'arrête avec le traité de Tirana d'août 1919, reconnaissant définitivement l'indépendance de l'Albanie. Ensuite, le pays connaît des troubles. L'opposition prend ainsi le pouvoir et enchaîne les réformes, contrariant l'aristocratie locale qui fomente un coup d'état, remettant au pouvoir Ahmed Zogu qui, 4 ans plus tard, se fera couronner roi d'Albanie sous le nom de Zog Ier. Il met en place une dictature militaire violente et corrompue qui finira par disparaître avec l'invasion italienne lors de la Seconde Guerre mondiale. La Bulgarie, quant à elle, fait partie des perdants et se retrouve donc dans une mauvaise position avec le traité de Neuilly. En effet, la Grèce récupère des territoires de Thrace orientale bulgare, la privant ainsi de son accès à la mer Égée, sans compter de nombreux territoires de sa frontière ouest donnés aux Yougoslaves. Mais la monarchie pourtant ne cessa pas d'exister. C'est ainsi qu'en 1920, le parti paysan qui était au pouvoir depuis 1919, avec un gouvernement de coalition de gauche, remporte de nouvelles élections avec 40% des voix et se transforme en dictature paysanne. Les anciennes élites s'allient et provoquent un coup d'état en 1923, capturant et assassinant sauvagement le chef du gouvernement. Une insurrection ouvrière débute, mais elle est écrasée dans le sang par le nouveau régime pro-fasciste. Les communistes sont restés neutres, estimant qu'il s'agissait d'un conflit entre bourgeois. Cependant, en septembre, ils changent de décision. Mais il était déjà trop tard. Maintenant, parlons de la ville de Fiume, aujourd'hui en Croatie. Elle était moitié peuplée d'Italiens et moitié peuplée de Croates. Mais surtout, elle avait été promise à l'Italie pour son entrée en guerre lors de l'accord secret de Londres signé en 1915. Avec l'explosion de l'Empire des Habsbourg et la naissance de la Yougoslavie, il paraissait impossible d'accorder toutes les clauses de l'accord secret. Fiume se voit donc proposer le statut d'État libre, sous l'égide de la Société des Nations. Pour les Italiens, elle devient le symbole de cette paix mutilée. Mais dès le 12 septembre 1919, le poète nationaliste italien Gabriel D'Annunzio occupe la ville avec 200 volontaires. La ville préfigure ainsi une Italie fasciste. Plusieurs figures y font un pèlerinage, notamment Mussolini. Finalement, l'Italie signe le traité de Rapallo avec la Yougoslavie le 12 novembre 1920, entérinant le statut d'État libre, expulsant D'Annunzio. La ville est en plein bouleversement entre nationalistes et des deux bords durant les années qui suivirent. Mais après l'arrivée de Mussolini, elle est rattachée en 1924 par le traité de Rome à l'Italie. Passons à la Grèce. Son histoire est indissociable avec la naissance de la Turquie actuelle et l'explosion de l'Empire ottoman. La Grèce a soutenu les Alliés et va se voir donc récompensée. Nous l'avons vu, elle récupère donc une très grande partie de la Thrace orientale bulgare, mais aussi la Thrace orientale ottomane. C'est, je vous le rappelle, l'équivalent du territoire européen de la Turquie. Le sultan est contraint de signer le traité de Sèvres le 10 août 1920, qui anéantit l'Empire et le réduit aux deux tiers de la Turquie actuelle. Mais alors, ça veut dire que la Turquie s'est agrandie après le traité? Eh oui, c'est bien cela. Le pays ne s'est pas laissé faire. L'armistice avait mis en place une occupation alliée d'Istanbul. Les provinces arabes de Syrie et du Liban reviennent à la France, et la Palestine, la Jordanie et l'Irak à la Grande-Bretagne. Et tout à l'est, un Kurdistan ainsi qu'une Arménie sont créés. Ces deux états seront éphémères. Les Turcs se sentent donc humiliés. Mais ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est que les Anglais, ne souhaitant pas occuper eux-mêmes la région de Smyrne, dans l'extrême ouest de la Turquie, donnent procuration à la Grèce. La grande rivale de la Turquie, et ne cachant pas son souhait de rétablir la Grèce historique. Un ancien officier ottoman, Mustafa Kemal Pacha, le futur Atatürk, père de la nouvelle Turquie, fonde à Ankara un gouvernement rebelle rejetant le traité de Sèvres. Il est rejoint par une centaine de députés du parlement ottoman, renforçant sa légitimité et ruinant celle du sultan. Les kémalistes réoccupèrent facilement l'Arménie à l'est en s'alliant à la Russie bolchevique et entra dans une guerre terrible avec la Grèce. La France, voyant le vent tourner, ne disposant pas suffisamment de force sur ce théâtre, plus inquiet par l'avancée des communistes en Europe de l'Est et ne souhaitant pas faire venir plus de troupes, accepte de se rapprocher d'Ankara en 1921 et elle le fait avec l'Italie. Et c'est ainsi qu'elle leur cède la Cilicie, territoire au nord-ouest de la frontière syrienne. Finalement, de septembre 1921 à septembre 1922, l'armée grecque subit défaite après défaite et termine sa course en débâcle, perdant ainsi la Thrace orientale turque, mais aussi la région de Smyrne par l'armistice du 11 octobre 1922. La ville sera reprise dans la plus grande violence et se verra subir un massacre. Les populations grecques furent expulsées. Le sultanat est aboli le 1er novembre et le régime d'Ankara devient officiel le 4. Le 24 juillet 1923, le traité de Lausanne est signé, rendant officielles les nouvelles frontières turques, et le 6 octobre, l'occupation d'Istanbul prend fin avec sa rétrocession, et le 29, la République est proclamée. Mais les anciens territoires de l'Empire ottoman ne s'enflamment pas uniquement en Turquie. En effet, les peuples arabes du Levant, à savoir l'actuelle Syrie, la Jordanie, la Palestine, l'Irak et le Liban, se sont soulevés contre les Ottomans avec la promesse faite par les Alliés de devenir indépendants. Cette révolte, c'est l'épopée d'un officier anglais célèbre, Lawrence d'Arabie. Pourtant, les Anglais et les Français se sont secrètement partagés ces territoires avec les accords Sykes-Picot. La Syrie et le Liban pour la France et le reste pour les Britanniques. Mais lors de la guerre, la libération de ces pays s'est faite conjointement avec l'armée anglaise et les rebelles arabes, les Français ne se limitant eux qu'à une partie du Liban. La Grande-Bretagne avait promis d'installer les fils du Seine, alors shérif de la Mecque, c'est-à-dire gardien des lieux saints, dans un grand Moyen-Orient avec Faisal à Damas et Abdallah, son frère, à Bagdad. Et les Britanniques souhaitaient donc renégocier les accords. Mais les Français campent sur leur position. Le jeune royaume de Syrie entra donc dans une guerre contre l'armée française d'Orient. Mais mieux équipée et plus nombreuse, l'armée française écrasa Faisal à la bataille de Khan Maysaloun en juillet 1920. La France s'accorda aussi avec la Turquie kémaliste et assura ainsi ses frontières au nord. Faisal dut fuir la Syrie et devient finalement roi d'Irak. Le mandat pouvait donc dorénavant être mis en place. La réalité locale voulait qu'on en fasse, avec le Liban, Alep, Damas, l'État alouite et l'État druze, une grande Syrie fédérale. Mais cela nécessitait de multiplier par 5 le nombre de fonctionnaires, ce que Paris refusa. Ne pouvant pas financer ce projet, le mandat se transforme en une tutelle coloniale classique, proche du protectorat, et le Liban fut séparé de la Syrie. Enfin, on termine avec la très courte apparition d'États indépendants dans le Caucase. Les trois principaux pays de Transcaucasie, à savoir l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, proclament leur indépendance et leur union le 9 avril 1918 dans une république démocratique fédérative de Transcaucasie. Mais ce tout nouvel état éclate presque au lendemain de sa naissance. Commençons par la tragédie arménienne. Après le retrait russe de 1917 et l'effondrement ottoman, les survivants du génocide organisé par le pouvoir jeune turc se rassemblent autour de la ville d'Erevan. Des Arméniens reviennent progressivement des déserts syriens et mésopotamiens, rescapés des déportations. Ils se dirigent vers les territoires français de Syrie qui organisent le retour des populations. C'est un peuple profondément traumatisé en quête de sécurité et d'indépendance. Après sa courte union avec ses voisins, l'Arménie proclame son indépendance le 28 mai 1918, comptant sur une protection alliée pour limiter la menace turque. Elle rentra en conflit avec l'Azerbaïdjan pour des questions de territoire, affaiblissant encore plus un pays déjà mourant. Les nationalistes turcs de Kemal ne laissent pas passer l'occasion et attaquent sans déclaration de guerre en 1920. Ankara s'étant allié avec Lénine, le pays est partagé et la partie sous domination soviétique devient le 29 novembre la République soviétique d'Arménie. Ainsi disparut l'Arménie. Alors que l'Arménie est chrétienne, l'Azerbaïdjan, lui, il est peuplé de turcophones chiites, donc musulmans. Et des violences interethniques dans le Caucase en mars-avril vont finir d'unir les élites qui ne cacheront plus leur sympathie pour le pouvoir ottoman. Ce dernier a d'ailleurs rompu la trêve avec la Russie et repris son offensive sur la Transcaucasie. Profitant de cet événement, l'Azerbaïdjan proclame son indépendance le 27 mai 1918 et la naissance d'une république démocratique. Mais après la défaite ottomane en octobre 1918, les Azéris se retrouvent sans soutien. Ils vont donc tenter d'avoir les faveurs britanniques en jouant la carte de l'anticommunisme. Tout ça en luttant militairement contre l'Arménie. Affaiblie comme cette dernière, elle devient une proie facile pour Moscou qui lance l'armée rouge. Le 28 avril, elle devient une république soviétique. Terminons avec la Géorgie, terre d'origine de Staline. Dès le retrait russe, elle tombe sous l'autorité communiste. Mais pas des bolcheviks, non, la branche opposée, à savoir les mencheviks. Pour rappel, c'est eux qui veulent un parti de masse et non d'élite. Et ils sont en conflit avec Lénine. La Géorgie est aussi en partie occupée par des troupes allemandes qui sont venues durant la trêve russo-ottomane de décembre 1917 à février 1918. La Géorgie se trouve donc entre deux feux. Sous le conseil des Allemands, qui veulent limiter l'influence de leur allié ottoman, la République démocratique de Géorgie proclame son indépendance le 26 mai 1918. Mais après le 11 novembre, comme l'Azerbaïdjan, elle se retrouve seule, sans soutien, et se bat elle aussi, mais plus brièvement, avec l'Arménie. Elle reçoit le soutien britannique en 1920 face à la menace turque et se sent particulièrement menacée après l'invasion soviétique de l'Azerbaïdjan. Cependant, la Russie, prise par la guerre russo-polonaise, ne pouvant encore se battre dans cette région, reconnaît la Géorgie. C'est donc le seul état de Transcaucasie qui a eu une reconnaissance internationale avant sa disparition. Disparition liée en partie à l'afflux de réfugiés, rendant instable une économie qui était à l'origine déjà insuffisante pour répondre aux besoins du pays. Et comme ses voisins, l'aventure se termine par une invasion soviétique le 11 février 1921. Et voilà, nous avons donc terminé notre tour des conflits post-armistice du 11 novembre. Ces épisodes nous permettent de comprendre un peu mieux de quelle manière la paix s'est instaurée dans cet espace, de découvrir le prolongement de la guerre française vers l'Est, et de comprendre comment la modification de ces frontières impacte encore aujourd'hui, 100 ans après, la géopolitique au-delà même des frontières de l'Europe. On peut aussi remarquer que la guerre froide, ou du moins idéologique, entre le capitalisme et le communisme a en fait commencé dès 1917. Et il s'agissait plus d'une guerre chaude, puisque la Russie soviétique était directement en conflit avec les forces blanches et les alliés anticommunistes. Enfin, on voit que redessiner des frontières par un consensus entre les vainqueurs ne se fait pas comme ça, et qu'une guerre a toujours, toujours, toujours des résultats désastreux. C'est terminé donc pour ce mois de novembre et je vous retrouve en décembre pour une histoire, cette fois-ci limousine. Ciao!
histoires.
Ah! Mais trop.